Les mots de...
La transformation existence.
Vérité.
Le même et la différence.
La notion de monde. L'être et l'événement, évidemment.
Les mots de...
La science de l'être pur.
Alain.
La poésie. L'être là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Les mots de...
En principe, on ne peut pas dire.
Alain Badiou.
Une série en 10 épisodes. Identité et différence. Bonjour Alain Badiou.
Bonjour.
Nous continuons le parcours des notions importantes. Après cette notion de vérité et précédemment les notions d'être et d'existence, il y a deux notions qui fonctionnent ensemble, qui sont identité et différence. Et lorsqu'on vous lit, on peut aussi se dire, finalement, toute la philosophie d'Alain Badiou, c'est une philosophie de l'identité et de la différence.
C'est-à-dire que la grande question est celle qui s'est présentée au tout début de la philosophie comme la question du même et de l'autre. Une transposition de identité et différence. On en a parlé à propos de la notion d'être. Finalement, est-ce que l'être, c'est ce qui est toujours le même, ou est-ce que l'être, c'est ce qui est toujours différent? Est-ce que c'est le mouvement qui est véritablement ce qui est, ou est-ce que c'est la figure de l'immobilité, de l'un? Alors, c'est vrai que toute la philosophie, c'est toujours une tentative de surmonter cette opposition. On appelle ça, en philosophie, la dialectique. La dialectique, c'est tenter de penser le même comme différent ou le différent comme même, c'est-à-dire c'est d'intérioriser la différence. C'est un problème dont on peut donner immédiatement des illustrations politiques, qui sont peut-être les plus simples. Vous savez qu'en politique, la question de l'identité de la différence est une question cruciale, hein. Puisque toute politique, jusqu'à nos jours, s'est toujours représentée dans un cadre identitaire d'abord. C'est-à-dire toute politique, une politique nationale, par exemple. Mais qu'est-ce que c'est que la nation? Est-ce que la nation, c'est une identité? Ou est-ce que la nation, c'est le rassemblement ou l'unification de différences? C'est un problème qui, encore aujourd'hui, est un problème qui tourmente, en fait, toute la vie politique. Est-ce que la politique se fonde sur la contradiction, la thèse marxiste, malgré tout? Une société, c'est une société qui est définie par la lutte principale qui la constitue, la lutte de classe centrale qui la constitue, ou est-ce qu'au contraire, une société, c'est une unité collective, rassemblée autour d'un système de valeurs, d'un système de représentation. Le conflit majeur du XXe siècle, qui a été le conflit entre fascisme et communisme, il faut dire les choses comme elles sont, le conflit entre fascisme et communisme a été absolument le conflit entre une conception de la société fondée sur l'identité, le fascisme, alors voilà, la race aryenne, la nation allemande, la catholicité espagnole, tout ce que vous voulez, et une notion de la politique qui est quand même fondée sur la contradiction. C'est-à-dire fondée sur la contradiction qui peut être sans doute surmontée, mais qui sera surmontée en direction de l'universel, pas en direction d'une identité particulière. Parce que l'idée communiste authentique, c'était l'émancipation de l'humanité tout entière, comme Marx l'a toujours dit. L'émancipation du prolétariat, c'est pas le triomphe d'une identité. L'émancipation du prolétariat, c'est l'affirmation, la création d'une humanité réconciliée. Vous voyez, cette question de l'identité de la différence, elle est cruciale en politique, mais finalement, elle l'est partout. Puisque si on prend l'art, dont nous avons déjà parlé un petit peu précédemment, on voit bien que la question est de savoir si l'art, c'est la réalisation d'identités formelles stables, hein, comme par exemple, c'était la conviction des classiques. Les classiques du XVIIe pensaient que les formes de l'art avaient déjà été inventées de manière supérieure par les Grecs, en réalité par les Grecs et les Latins, et qu'il fallait imiter cela le mieux qu'on pouvait. Alors est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est du côté d'une identité formelle, l'art? Ou est-ce qu'au contraire, c'est du côté d'un jeu contradictoire, différentiel, qui introduit des formes neuves et même des formes inadmissibles, exceptionnelles, monstrueuses même, monstrueuses? Il y a une théorie contemporaine de l'art comme monstruosité assumée. Donc dans tous les domaines, on a cette problème. Et ce que moi je tente de dire, c'est que il y a un fond identitaire, si l'on veut, absolument neutre, mais que ce fond est multiple. C'est la multiplicité. On en a parlé à propos de la notion de l'aide. Donc il y a un fond neutre qui, d'une certaine façon, n'est ni identique ni différent, il est multiple. Il est du multiple, et le multiple, c'est neutre entre le même et le différent. Vous prenez quelque chose qui est multiple, vous pouvez dire que c'est cette chose-là, ce multiple-là, mais vous pouvez dire aussi que cette chose-là n'est que multiplicité, donc elle est aussi différente d'elle-même, de ce point de vue. Donc il y a un fond qui est neutre comme ça, et puis, sur ce fond, ce qui apparaît, c'est beaucoup plus la différence entre ce qui est particulier et ce qui est universel. C'est-à-dire que la vraie contradiction... Moi, je dirais que ma philosophie, c'est la transformation de l'opposition entre identité et différence en opposition entre purement particulier et ayant une valeur universelle. Voilà. C'est-à-dire entre, finalement, opinion et vérité aussi, entre les opinions dominantes qui sont toujours plus ou moins identitaires... Hein, moi je suis ça, toi t'es pas ça, voilà. Ah bah les étrangers, de toute façon il faut nos valeurs, il faut ce qu'on est, et puis ce qu'on n'est pas c'est pas fameux, bon, etc. Et puis moi, et puis après il y a les autres. Et puis d'un côté ça, et puis de l'autre ce qui en fait relèverait de la généralité universelle, de l'intérêt public, de ce qui peut avoir une valeur pour tout le monde, etc. Je pense que c'est ce que la philosophie doit constamment ramener au centre de la perception et de la conviction pour ne pas laisser triompher l'identité. Parce que l'identité est toujours menaçante, parce que vous ne pouvez stabiliser une identité que par la négation de l'autre. Il n'y a aucun autre moyen, il n'y a pas d'autre identité que les identités qui se constituent par négation de l'altérité.
Et puis l'identité, comme il vous est arrivé aussi de le préciser dans un de vos cours, l'identité vient de la loi de l'autre. L'identité, c'est le naissance, le nom.
Bah, bien sûr. C'est-à-dire que l'identité, c'est une altérité figée. C'est quelque chose qui vient d'ailleurs, effectivement, mais c'est quelque chose qui vient d'ailleurs, mais qui a été immobilisé comme ça. Comme si cette venue d'ailleurs était une loi nécessaire, et quelque chose qui doit absolument être répété.
Il y a cette phrase « En moi, l'élément proprement identitaire, c'est ce dont je ne peux pas dire que je ne le suis pas, bien que pour l'essentiel, je n'y sois pour rien. »
Voilà, et ben c'est bien ça. L'identité, c'est ce qui m'est infligé, en fin de compte. C'est-à-dire que je ne peux pas, moi-même, je ne peux pas dire, oui, je suis né au Maroc. Je peux pas, je ne suis pour rien. Je suis absolument pour rien. Et cependant, ce que je peux faire qui soit intéressant et pour moi-même et pour les autres sera de passer au-delà de ce point auquel je ne peux rien.
Du coup, on peut avoir une interprétation toute singulière de la phrase de Nietzsche, « Deviens qui tu es ».
Ben, « Deviens qui tu es », le vrai sens de « Deviens qui tu es », c'est « Deviens qui tu n'es pas ». C'est le vrai sens. Parce qu'au fond, devenir ce qu'on est, et je pense que c'est bien comme ça que Nietzsche l'entend, c'est se décoller du destin identitaire qui nous est infligé, pour réellement forger l'exception que nous pouvons être. Exception qui, en fin de compte, nous arrachant à l'identité, va s'exposer aux autres. En fin de compte, devenir ce qu'on est, c'est entrer dans la fraternité avec les autres. C'est pas du tout stabiliser notre identité passive.
Il y a une notion que vous développez dans certaines de vos circonstances, ces fameux livres d'intervention, qui est la notion de non séparateurs, les noms séparateurs. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire quelques mots sur ces noms séparateurs, à partir notamment des événements populaires qui cherchent à ruiner, justement, d'une certaine manière, à mettre en faiblesse, à désactiver la puissance de ces noms séparateurs?
Oui, je crois que un nom séparateur, c'est quand on désigne des sujets, des gens, par exemple, par un nom qui les rassemble dans une altérité immobile. Même des noms un peu innocents ou purement descriptifs peuvent avoir ce destin. Par exemple, même quand vous dites les immigrés, on peut le prendre comme un simple constat. Ce sont des gens qui viennent d'ailleurs, voilà. Mais si vous laissez se stabiliser ce nom, il va fonctionner non pas du tout comme un nom qui est un nom d'une hospitalité, d'un accueil. Ça ne veut pas signifier simplement, voilà, c'est des gens, ils sont ici, mais ils viennent d'ailleurs, et je les accueille en tant qu'ils viennent d'ailleurs. Il va fonctionner au contraire comme nom séparateur. Il va fonctionner comme, ceux-là ne sont pas comme moi, puisqu'ils sont là, bien sûr, mais ils sont là en tant qu'immigrés, va être un sceau de leur séparation. C'est ça que j'appelle un nom séparateur. C'est très important en politique. En politique, il y a beaucoup de noms qui peuvent au départ être descriptifs, simplement, raconter une histoire. Un immigré, bon, il vient d'ailleurs, il est voilà. Mais qui, finalement, devient un nom dans lequel l'aspect principal est que ces gens-là ne sont pas comme moi. C'est-à-dire que ces gens-là sont séparés de moi. On sait très bien qu'aujourd'hui, même des noms purement descriptifs, comme musulmans, peuvent fonctionner comme ça, par exemple. Alors, musulman, en fin de compte, ça désigne quoi? Ça désigne quelqu'un qui a une religion particulière, comme chrétien, quoi. Mais on sait très bien que ça peut devenir un nom séparateur, c'est-à-dire ça peut devenir un nom qui, au lieu de prescrire la possibilité d'une communauté, va prescrire l'impossibilité d'une communauté. Alors, je pense qu'une partie de la philosophie doit mettre en garde contre les noms séparateurs et leur usage, et de fait, je pense que tout grand mouvement populaire est une levée contre les noms séparateurs. Et j'avais été très frappé, par exemple, dans la période exaltée, et malheureusement depuis oubliée en partie, de ce qui a été appelé le printemps arabe, notamment en Égypte, sur le fait que le mouvement populaire crée littéralement la possibilité qu'entre les chrétiens coptes d'un côté et les musulmans de l'autre, un très vieil antagonisme séparateur, qui faisait que chrétien, là, est un mot séparateur, était transformé, modifié, où les uns protégeaient les autres, etc. Et ça, c'est quand même une des ressources du mouvement populaire, qui est de se débarrasser, autant que faire se peut, des noms séparateurs.
Mais les nombreuses luttes spécifiques qui existent aujourd'hui à travers le territoire, bon, par exemple, je sais pas moi, les luttes de chômeurs, ou les luttes des homosexuels, bon... Est-ce qu'ils reconduisent des noms séparateurs?
Je pense que non. Je pense qu'au contraire, ils en appellent à une opinion générale pour que le nom cesse d'être séparateur. Lorsque les homosexuels réclament, au fond, une égalité des droits juridiques, allant jusqu'à la possibilité du mariage, etc., ils sont pas du tout en train de dire qu'ils doivent être séparés, ils sont en train de dire qu'ils doivent être inséparés. Donc ils en appellent, et ils savent très bien aussi que la possibilité de faire bouger les choses de ce point de vue-là, que le nom ne soit plus un nom qui stigmatise et qui sépare, mais un nom qui ne fait que décrire une situation de gens qui sont parmi nous, que ça suppose une adhésion des autres. Et c'est pour ça que c'est expressément une lutte contre les noms séparateurs. Et je pense que c'est absolument général. Dans les récits de grandes luttes ouvrières, il y a toujours un moment où on cherche l'appui, le soutien, et voire même la participation de gens qui ne sont pas directement concernés par la lutte en question, mais qui, pour des raisons universelles, précisément, non identitaires, vont cependant la soutenir, la rallier, etc. C'est absolument fondamental. Donc, en politique, on pourrait trouver des exemples ailleurs, mais en politique, c'est absolument clair que toute, tout mouvement véritable, tout mouvement populaire véritable, tout mouvement politique véritable, on peut toujours montrer qu'il a besoin de mettre fin à la fonction séparatrice d'un certain nombre de mots. Moi, j'ai connu, j'ai beaucoup pratiqué ça, j'étais militant dans les usines et dans aussi les foyers étrangers, et j'ai vu à quel point il y a toujours des moments de la lutte où se débarrasser du caractère séparateur des noms est absolument fondamental. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Les mots de...
En principe, on ne peut pas dire.
Alain Badiou.
Une série en 10 épisodes.